Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Aujourd'hui, on se penche sur une question assez cruciale pour beaucoup d'audioprothésistes salariés.
Ah oui.
Le grand saut. Est-ce qu'on se lance en indépendant ou est-ce qu'on choisit plutôt la voie de la franchise?
Le dilemme classique.
Exactement. Alors, on va explorer ça ensemble en s'appuyant sur des extraits d'Audio Info France. L'idée, c'est vraiment de décortiquer les avantages, les inconvénients de rejoindre un réseau, histoire d'y voir un peu plus clair.
Oui, parce que choisir une franchise, bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu comme un raccourci au début.
C'est ça l'image qu'on en a.
Voilà. Les sources, elles soulignent bien l'accès quasi immédiat à une notoriété, à une marque connue, et puis un concept qui a déjà fait ses preuves.
C'est tentant, forcément.
Très tentant. Mais ça implique aussi, et c'est important de le dire, une certaine dépendance vis-à-vis du réseau, de ses règles. On est indépendant, oui, mais intégré dans un système.
Et ce système, justement, il n'est pas unique. Les documents qu'on a consultés décrivent bien plusieurs types d'accords possibles.
Tout à fait. Il y a ce qu'on appelle la franchise classique, la plus intégrée, on va dire.
Où on adopte tout, c'est ça? La marque, le savoir-faire?
Exactement, le modèle global. Mais attention, il y a aussi des formules plus souples. La licence de marque, par exemple.
Ah oui, là, c'est plus léger. Juste l'utilisation du nom.
En gros, oui. C'est moins contraignant. Et puis, on trouve aussi la concession.
Ça, c'est plus axé sur la distribution de produits, non? Dans une zone définie?
C'est ça. Souvent avec une exclusivité territoriale. Et les sources mentionnent même des modèles un peu différents, comme les coopératives.
Où des indépendants se regroupent.
Oui, ils mutualisent certains moyens. Les achats groupés, la communication, parfois. Tout en gardant quand même plus d'autonomie que dans une franchise pure et dure.
Ce qui m'a marqué dans les textes, c'est vraiment l'insistance sur l'étape avant de signer quoi que ce soit.
L'auto-évaluation, c'est crucial.
Voilà. Est-ce qu'on est vraiment fait pour ça? Est-ce qu'on a les épaules pour gérer une entreprise, même petite? Et surtout, est-ce que les valeurs du réseau, son image, ça nous correspondent vraiment?
C'est fondamental, oui. Parce que si le profil colle pas, ça peut vite devenir compliqué. Et si ça colle, alors là, commence le vrai travail d'enquête.
La collecte d'infos.
Exactement. Faut vraiment creuser. Comment ça s'organise concrètement? Quels sont les coûts réels, pas juste le droit d'entrée affiché?
Il y a les redevances aussi, j'imagine?
Bien sûr. Les redevances, l'investissement de départ nécessaire. Mais aussi, et c'est important, ce qu'on peut vraiment espérer comme retour. La qualité de la formation, le niveau d'accompagnement au quotidien.
L'exclusivité territoriale, si elle existe.
Les services concrets que le réseau apporte. Tout ça, ça doit être passé au crible.
Et il faut rester lucide parce que les sources partagent un témoignage qui fait réfléchir quand même.
Ah oui, celui de cet audioprothésiste.
Oui, il raconte comment un mauvais choix de réseau, ou peut-être un contrat lu un peu trop vite, l'a mené à se sentir pieds et poings liés.
C'est fort comme expression.
Et le pire, c'est qu'après le rachat de l'enseigne par un autre groupe, il a vraiment eu le sentiment de perdre le fruit de son travail, de ses efforts. Ça calme un peu.
C'est un avertissement très clair, oui. Ça montre bien la nécessité d'une analyse juridique, comptable, sérieuse du contrat. Et surtout, de se faire accompagner par des conseillers externes neutres.
Ne pas y aller seul.
Surtout pas. Et un point intéressant aussi soulevé dans les documents Suali, le réseau le moins cher en apparence, c'est pas forcément le meilleur choix.
Ah bon? Pourquoi?
Mais ce qui compte vraiment, c'est l'équilibre. L'équilibre entre le soutien réel qu'on reçoit, économique, logistique, marketing, et l'efficacité opérationnelle que ce réseau permet d'atteindre. C'est ça le vrai calcul.
D'ailleurs, sur les coûts, certains réseaux fonctionnent sans droit d'entrée, c'est ça?
Oui, ça existe. Mais attention, dans ce cas, il y a souvent une redevance sur le chiffre d'affaires.
D'accord, un pourcentage.
Voilà. Et parfois même, cette redevance est assortie d'un minimum garanti. Donc même si le chiffre d'affaires est bas au début, il faut quand même payer un minimum.
Donc ces différents modèles financiers, il faut vraiment les étudier de près pour voir ce qui colle le mieux à son propre projet, à ses prévisions.
Absolument. Chaque cas est différent.
Au final, on revient toujours un peu à cet arbitrage, non? Entre l'indépendance totale, avec la liberté, mais aussi les risques.
Et la structure, le support d'un réseau, avec ses avantages, mais aussi ses contraintes.
Les sources le montrent bien, il n'y a pas de réponse unique, de solution miracle.
Tout à fait. La clé, ça semble vraiment être une démarche rigoureuse. D'abord, bien se connaître soi-même. Ensuite, enquêter à fond sur le réseau qu'on envisage.
et surtout bien comprendre toutes les implications du contrat, sur le long terme.
C'est ça. Et peut-être pour finir, ouvrir sur une question un peu plus prospective.
Oui, bien sûr.
Au-delà des chiffres, des contrats, de la logistique, comment on s'assure que cette flave entrepreneuriale, ce désir d'autonomie qui pousse souvent à se lancer, comment s'assurer qu'elle pourra vraiment continuer à s'épanouir, à vivre, au fil des années, au sein d'une dynamique collective qui, par définition, impose un certain cadre ?
C'est une question fondamentale à méditer avant de s'engager, effectivement. De quoi réfléchir.
Voilà.